Bonjour, nous allons donc poursuivre par la deuxième partie de ce colloque et nous aurons 5 interventions qui exploreront donc un peu plus avant ces nouvelles recherches sur Le Corbusier, toujours patiente. Nous entendrons d'abord Romy Golan qui nous parlera des questions de géopolitique au pluriel du mural nomade. Elle nous expliquera ce qu'il faut entendre par ce néologisme. Romy Golan est professeure au Graduate Center de l'Université de la ville de New York. Ses travaux, elle est historienne de l'art et ses travaux assez nombreux ont porté notamment sur l'entre-deux-guerres en Europe et plus récemment avec un ouvrage sur l'Italie dans les années 60 et la publication en français, la traduction d'un ouvrage qui s'intitule justement Mural Nomade aux éditions Macula. Ensuite, nous écouterons Poncho Liermour, qui est architecte, spécialiste de l'architecture de l'Amérique du Sud et qui travaille à l'université Torquato di Tella de Buenos Aires et qui nous parlera donc d'un territoire que Le Corbusier aura beaucoup arpenté et sur lequel il aura placé beaucoup d'espoir. Ensuite, Véronique Boone, qui est également architecte et enseignante à l'université Lacambre de Bruxelles, nous parlera des relations de Le Corbusier plutôt avec le cinéma en général, à la suite de la thèse qu'elle a soutenue récemment et qui a obtenu le prix de la recherche patiente de la Fondation Le Corbusier, qui est donc partenaire de cette journée. Ensuite, nous irons parallèlement dans le temps avec Anna Rossellini, qui est architecte, qui enseigne à l'Université de Bologne et qui a publié récemment avec Roberto Gargiani une véritable somme qui est intitulée Le Corbusier, béton brut et espace indicible et qui nous parlera d'un sujet qui nous mènera après la guerre, donc dans la deuxième période du travail de Le Corbusier, période sur laquelle reviendra également Bruno Reichlin, architecte, enseignant à l'Université de Genève, à l'Accademia d'Architectura de la Suisse italienne et qui se consacre à beaucoup de travaux, notamment sur la question de la rénovation, de la restauration, des édifices du XXe siècle et qui va bientôt faire paraître en français une traduction d'un recueil de ses principaux articles sur Le Corbusier qui jalonnent une bonne trentaine de travaux sur Le Corbusier. Voilà, j'appelle Romy.
Merci Jean-Louis de m'avoir invité. Alors je revisite un peu ce thème du mural nomade, étant revenu un peu à la Fondation Le Corbusier, où je n'avais pas été depuis pas mal de temps. Alors voilà. En 1948, Pierre Baudouin, ancien professeur de dessin à Aubusson, me demandait de peindre des cartons de tapisserie. Dès ce moment, ce fut une décision de principe. La tapisserie ne doit jamais servir de dessus de commode ou de buffet de service, ni en dimension, ni en situation. Elle n'est pas un tableau, grand ou petit. La tapisserie doit s'offrir à l'œil à hauteur d'homme. Elle peut et doit peut-être toucher au sol. Sa hauteur est donc déterminante. Ainsi entreront-elles comme un élément utile dans la composition de l'architecture moderne et non comme un décor. La destinée de la tapisserie, aujourd'hui à Paris, elle devient le mural des temps modernes. Ce mur de laine qu'est la tapisserie peut se décoller du mur, se rouler, se prendre sous le bras à volonté, aller s'accrocher ailleurs. C'est ainsi que j'ai baptisé mes tapisseries murales nomades. Écrit Le Corbusier dans le catalogue de 12 tapisseries à la galerie Denise René en 1952. En 1957, il demande d'en faire une marque déposée au tribunal du commerce de la Seine, le label Mural Nomade cousu au dos de chacune de ses tapisseries. Cela, écrit-il dans une note à son avocat, pour protéger ce titre afin qu'il ne soit employé par d'autres comme le Modulor qui a été galvaudé par 2 ou 3 firmes sans recours possible contre eux. Fin de citation. C'est en 1949, après de rares excursions dans les années 30, que Le Corbusier manifeste un véritable intérêt pour la tapisserie. Le Corbusier travaille à Aubusson avec Maurice Tabard, Pierre Baudouin, à l'atelier Raymond Picon et à l'atelier Pinton. Baudouin lui-même travaille à ce moment-là avec Braque, Estève, Calder, Picasso, Masson, Matisse. Mais ce sont presque toujours des tapisseries de petit format, trop petites de dimension au gré de Le Corbusier et trop proches de la peinture, même si leurs cartons sont conçus expressément pour être tissés. Alors ça, c'était un peu ma visite, oui, justement, mon retour à la Fondation, et là, j'ai regardé, parce que, en fait, moi, je ne m'occupe pas de tapisserie, et il faut dire que le livre Mural Nomade a seulement en partie à voir avec Le Corbusier. Comme je l'expliquerai, le terme était... Et quand j'ai demandé, d'ailleurs, à la Fondation, j'ai dit, est-ce que je peux appeler mon livre Mural Nomade, ou est-ce qu'il faut... Puisqu'il y a eu l'interdiction de Le Corbusier d'utiliser ce terme, ils ont dit non, allez-y, très bien. Et voilà, alors il n'y avait pas une interdiction, et j'ai moi-même accaparé le terme de Mural Nomade. En tout cas, en 57, il y a cette exposition qui est son exposition de 70 ans au musée de sa ville natale, La Chaux-de-Fonds. Et c'est une exposition de toutes les tapisseries, voilà, il prépare, au fait, bien qu'il les appelle nomades, au fait, obsessivement, et c'est clair dans la correspondance, il suit chaque petit chemin de ces tapisseries, et on voit dans la correspondance aussi, vous allez voir, beaucoup de plaintes sur le fait que les tapisseries ont voyagé dans des endroits où il ne voulait pas qu'ils voyagent, dans des expositions où il ne voulait pas qu'elles assoient, des galeries, au fait, il est très, très particular sur le trajet de ces tapisseries, et voilà son petit projet, donc, et c'est intéressant que pour son anniversaire de 70 ans, on célèbre les 70 ans à La Chaux-de-Fonds, il décide de faire une exposition de tapisserie. Il faut dire aussi que le catalogue, d'ailleurs, le dit lui-même, cette exposition suit immédiatement une exposition à Zurich qui jouxtait avec une de Fernand Léger, où il y a eu une compétition, et d'ailleurs le dit lui-même, assez dure pour Le Corbusier, où il a fallu se rendre compte, par exemple, que Le Corbusier, il dit, était lui aussi un peintre. Que fait Le Corbusier ? Au lieu donc de montrer des peintures, et au fait, il montre aussi, on verra un peu des projets d'architecture, mais il montre surtout ses tapisseries. Donc ces tapisseries sont un peu comme ça, c'est un sujet de réflexion. Enfin, pour que vraiment, quel rôle occupe la tapisserie dans son travail par rapport à la peinture ? Bon, alors par exemple, il montre ça, c'est la première tapisserie, et c'est la seule tapisserie qu'il fait qui ressemble vraiment à un tableau, bien que, et voilà, ça a été commandé par Marie Cutoli, alors ça c'est sa première tapisserie en 36, et de là, après, toutes les tapisseries, quand même presque toutes, sont des années post-48, donc des années 50. Là, déjà, quand elle lui demande de faire, et ça sort d'un tableau, donc Cutoli demande à Le Corbusier et à Fernand Léger une commande, elle leur passe une commande, et bien que ce carton ressemble à un tableau, mais ait été fait pour une tapisserie, tous deux entoureront leur tapisserie d'une bordure discontinue, afin de mettre une distinction dès le début entre la tapisserie et la simple reproduction d'une œuvre peinte. Il ne faut pas donc de cadre, techniquement ces tapisseries donc, ne devraient pas être encadrées. Et vous voyez que la petite pomme de pin comme ça en trompe-l'œil sur le côté est aussi un clin d'œil par rapport à une peinture qui n'est même pas sa peinture non plus. Donc comme ça, un petit clin d'œil par rapport au réalisme de la peinture que la tapisserie n'est pas. Bon, les commissaires, c'est une chose qui m'a frappée, c'est que je regardais là aussi, donc je retourne, comme je dis, j'étais à la Fondation, et il y a eu récemment cette exposition au Musée des Beaux-Arts de Besançon en 2011, où j'avais déjà feuilleté, mais là, de nouveau, j'ai regardé, le Corbusier expose. Vous savez, maintenant, il y a ce genre de maladie, surtout, enfin, je ne sais pas si c'est une maladie parce que j'y participe, mais en Amérique, tout le monde travaille sur l'histoire des expositions. C'est encore une des meilleures façons de ne pas regarder les œuvres. On travaille sur tout ce qu'il y a autour et on travaille sur les expositions. Et ce qui est frappant quand on travaille sur ces expositions, considérez combien de photos on a vues aujourd'hui, il y a très peu de... souvent, pas toujours, mais il y a des expositions pour lesquelles il n'y a presque pas d'exposition, de photos d'exposition, de installation. Parce qu'à l'époque, c'était, alors par exemple, pour cette exposition, il y a presque rien, il y a ça. Alors, les commissaires de Le Corbusier exposent, donc à Besançon, posent la question, comment présenter un tableau ? Comment éviter que la disposition d'une peinture ne risque à tout moment d'entrer en conflit avec le bâtiment ? Mais pas un mot dans ce catalogue sur la tapisserie, qui est au fait le médium et le format où Le Corbusier pose cette question de la façon la plus percutante. Comment on monte, comment on expose une tapisserie ? Qu'est-ce qu'une tapisserie ? Et ça, c'est évidemment l'idée de Mural Nomade. et on verra comment donc elle ne peut pas être un tableau. Mais là, vous voyez qu'elle est donc exposée au-dessus d'une photo de Ronchamp et à côté des étagères qui ressemblent beaucoup à Charlotte Perriand. Et là, elle est accrochée. Et vous voyez qu'elle est même inversée, la photo inverse, la photo en noir et blanc, inverse la tapisserie. Mais donc, cette tapisserie-là est exposée de façon bizarre. Enfin, elle est surélevée, elle n'est pas vraiment un mur. Elle est, on ne sait pas ce que c'est, elle est une genre de fresque tissée. Quoi qu'en écrit Le Corbusier, nous la voyons ici aussi accrochée au-dessus de buffets, au-dessus de meubles. Elle n'a pas de cadre, mais elle reste néanmoins souvent une pièce d'appartement. Même s'il dit dans son texte Mural Nomade, nous déménageons d'un appartement à l'autre, nous sommes devenus des nomades, mais elle fait quand même partie des meubles, souvent. Une autre chose, comme je vous ai dit, on voit donc dans la correspondance, et je n'irai pas là, je vais peut-être lire deux, trois petites lignes, mais on voit dans la correspondance ici avec Pierre Baudouin, Olivier Pinton, avec ses galéristes, Denise René et Denise Majorelle, la fondatrice de la galerie La Demeure, comment Le Corbusier suit donc le trajet, traque vraiment les déplacements de ces tapisseries, qui sont reproduites à 5 exemplaires, et donc elles font partie, au fait, les tapisseries de cet engouement pendant les années 50 et 60 pour les multiples. Et vous voyez qu'il dit par exemple, je suis extrêmement surprise, ça c'est le cas, de la désinvolture avec laquelle vous disposez des tapisseries signées M. Le Corbusier. Donc je voudrais que vous sachiez, il y a des plaintes de la part de Le Corbusier à sa galeriste, et à la galeriste après. Oui, comment le fait que ces tapisseries circulent un peu trop librement? C'est quand même... voilà. Alors, donc, elles sont faites pour être déplacées, mais il faut quand même contrôler leur déplacement. Et surtout, les ventes. Et vous voyez, là, à côté, Le Corbusier a des grands espoirs de vente. Il y a beaucoup de correspondances très marchandes, avec des très insistants, et même un peu brusques avec ses galeristes, surtout ses galeristes femmes, sur les ventes. Et la même chose avec Charlotte Perriand, quand elle exposera ses tapisseries à Tokyo, un peu plus tard. Bon, mural nomade est le terme que j'ai appliqué à rebours sur la question de l'image murale en Europe de 1927 à 1957, dans un livre où le sort que je fais à l'image murale est celle d'un format qui problématise l'art moderne au milieu du siècle dernier. Une lecture qui se voulait paradoxale, donc le titre « Le paradoxe de l'image murale ». Dans ce livre, il s'agit souvent... Achetez-le, je ne vous montre rien ici, Macula doit vendre. Dans ce livre, il s'agit souvent de peintures murales qui ne sont pas vraiment convaincues d'appartenir au mur. Et inversement, de photomuraux, ou fresques, photomural, il n'y a pas un terme, c'est vraiment un terme plus américain, enfin, ce que les Français appelaient à l'époque encore fresques photographiques, de grandes peintures et de tapisseries qui tentent constamment de retrouver leur chemin vers le mur. Donc, les tapisseries veulent être murales et les tableaux et les mosaïques sont suspendus dans l'air. Donc, tout est inversé. Et donc, dans mon livre, le mural est toujours en porte-à-faux, en somme. C'est ce qui m'intéressait. Des œuvres permanentes qui ont une apparence éphémère et inversement. Et des œuvres qui se disent être site-spécifiques, donc spécifiques au site, et qui sont en fait transportables. Au fait, au moment de l'exposition, par exemple, universelle de 1937, Guillaume Janot, directeur de la manufacture de Beauvais, puis des Gobelins, pense déjà au nomadisme de la tapisserie. En 1937, il dit, je cite, « La tapisserie neuve a-t-elle donc encore sa place au foyer moderne ? Comment en douter ? Précisément parce que l'architecture intérieure du logis sera de plus en plus rationaliste, hygiénique, commode et nue, et aussi parce qu'étant positiviste, elle sera impersonnelle. L'habitant sentira le besoin d'un décor franchement coloré, conforme à son goût individuel, précieux et cependant durable. Il sera vite là du bibelot de mode et du décor mural fixe. » Cette citation est intéressante, et ça m'a... D'ailleurs, quelqu'un qui m'a entendu parler récemment m'a envoyé comme ça cet email avec cette citation, qui s'occupe de la tapisserie, parce qu'elle dit déjà qu'en 1937, on voit Janot déjà dire, et pourtant Janot est plus conservateur que Le Corbusier, quand même déjà parler donc de cette idée du nomadisme. Mais c'est seulement après la guerre que l'image murale veut vraiment afficher ouvertement son nomadisme. Nous assistons, après la Seconde Guerre mondiale, à une série d'inversions de signes. Au niveau formel, T technique au niveau du médium et surtout politique et géopolitique. La façon dont les œuvres sont exposées, comme nous le verrons, ont une valeur politique. Par une inversion des signes, ce qui dans les années 30 représentait l'anomie, l'exil et la diaspora était devenu, donc vous comprenez que tous les régimes totalitaires ont fait du mural, n'est-ce pas ? Toute l'Italie a fait du mural, les Russes ont fait plus ou moins du mural, les Français étaient en compétition avec les Italiens pour ce mural, bien que c'est surtout en Italie donc qu'on a ce mural qui ne bouge pas. Donc nous assistons à cette inversion des signes, et ce qui était donc anomie, exil, diaspora dans les années 30 est devenu symbole de survie de l'humanité. Le nomadisme prend une valeur existentielle et assez comme ça, dramatique. Et tout ça, c'est de la rhétorique. Je dois dire une chose, les tapisseries, en général, jouent un rôle tout petit dans le 1% lors de la reconstruction. On a donné 1% après la Seconde Guerre en France. Bien que ce soit une chose toute française, la tapisserie. Comme vous savez, à cause des manufactures, on continue à tisser des choses qui coûtent un argent fou. Et en effet, moi, je vois des trucs au Gobelin. Franchement, je suis un peu surprise que tout ça continue. Mais bon, ça continue. Et ça, c'est une chose toute française. Les Italiens ne font pas ça. Personne ne fait ça au XXe siècle. Que les Français. Et on verra, ils l'exportent aussi dans les années 50 et 60. Mais c'est... Donc, c'est tout ça, c'est rhétorique, puisqu'il y a en fait très peu, malgré tout, de tapisseries dans les projets de reconstruction du 1%. Mais c'est Le Corbusier qui a compris, qui a capté mieux que tout autre la rhétorique de cette idée de nomadisme. Et c'est pour ça que, tout à coup, la tapisserie devient, pour lui et aussi pour moi, une chose intéressante. En France, pendant la guerre, la tapisserie avait mené une double vie. Tout le temps, on nous dit qu'il y a la vie de gauche et la vie de droite, et que dans les années 30, évidemment, sous le Front populaire, on a mis de l'argent dans la tapisserie. Que, par exemple, au musée, à Aubusson, pendant la guerre, il a fallu que Jean Lursa, qui après a fait plein de tapisseries, Beyond Good and Evil, comme on pourrait dire, je ne sais pas quoi dire de Lursa, bien que c'est le grand héros de la tapisserie de l'après-guerre, qu'il a tissé ça clandestinement. Mais en fait, quand vous regardez le site du musée d'Angers, on vous dit qu'en 1943, le carton a été fait et qu'elle a été tissée en 1952. Vous regardez un autre site de ce même musée, il vous dit qu'elle a été tissée en 1943. Bon, alors, soi-disant tissé clandestinement en zone libre par des artistes de gauche, il y a aussi Grommer là-bas, et bon, et ça prend du temps de tisser, donc de toute façon c'est 43 à 52. Mais on a aussi ça en 43. Je viens de voir pour la première fois cette tapisserie immense de Werner Peiner dans une exposition justement au Gobelin. C'était là aussi dans une chambre séparée. Je vois l'expo et chaque fois je dis, mais où sont ces tapisseries? Je savais qu'ils avaient montré de l'art Maréchal, parce que Pétain aussi a aimé, vous pouvez imaginer, il a aimé la tapisserie, on a fait de l'art maréchal. Et pendant la guerre, donc, pendant l'occupation, tout de suite, les Allemands veulent créer, tout de suite, ils s'intéressent au Gobelin. Et voilà, alors dans cette exposition, c'était mis dans une pièce qui était, on ne pouvait pas arriver à cette pièce. J'ai dû faire 4 fois le parcours de l'exposition pour finalement ouvrir cette porte et rentrer dans la pièce des 2 tapisseries commandées par Göring, le maréchal Göring, au Gobelin en 1940, ministre du Troisième Reich, pour la bibliothèque de sa résidence de Karinghal en Allemagne. Qu'est-ce qui est intéressant ici? Vous voyez qu'elle n'est pas finie. Il y a les fils d'or, je l'ai fait en... Bon, ça, c'est ma photo, donc tout est un peu en horizon, comme ça, un peu off. Et cette tapisserie est immense. Elle fait 7 mètres sur 4 mètres 6, mais au fait, elle devait faire 7 mètres sur 10 mètres parce qu'elle aurait eu le globe entier. On a la moitié du globe. Elle aurait été le globe terrestre dans son... Et donc, murale. Elle aurait vraiment été à la dimension de ce que fait Le Corbusier plus tard en Inde. Le globe terrestre à droite est entouré de signes astrologiques et de figures allégoriques, mythologiques, telles la foi, la loi, Apollon et encore Vénus. Donc une démesure et une opulence de cette teinture qui sont à l'image du commanditaire, réputé pour ses nombreux pillages, comme vous savez, d'œuvres d'art pendant l'occupation. Là aussi, le thème est cosmique. Alors, dans les deux cas, et ça, c'est une chose, je n'ai pas tellement le temps d'en parler ici, mais c'est intéressant qu'il y a ces thèmes cosmiques. Souvent, en tapisserie, on a ces thèmes. Là, évidemment, à gauche, donc, c'est ce soleil divisé par quatre. On a le poème d'Éluard, donc c'est vraiment un poème de la résistance. Mais dans les deux cas, ces grandes œuvres qui ne se veulent pas vraiment abstraites, et alors on fait comme ça des thèmes cosmiques, et ça c'est typique de la guerre et de l'après-guerre. Donc, elle n'est pas finie, évidemment, elle rentre dans les réserves, celle-là, celle du maréchal Pétain rentre dans les réserves du musée des Gobelins, et cette tapisserie-là intègre, dans ce cas, cette commande nazie intègre celle du musée du Louvre, et elle est donc dans le dépôt du musée du Louvre, et donc coloris très frais, puisqu'on ne la montre pas très souvent. Et la même chose pour les tapisseries qui ont été faites pendant la guerre. Donc, tout ça pour Vichy. Pourquoi je raconte tout ça? Parce que, de nouveau, tout ça a à voir avec ce besoin rédempteur. L'image murale doit to redeem itself, elle doit être rédemptrice de ce qui s'est passé dans les totalitarismes des années 30 et rédemptrice de ce qui se passe pendant la guerre et de cette double vie. Et rédemptrice veut dire donc de déclarer d'être fragile, nomade, qu'on la roule sous le bras et qu'elle bouge. Une autre chose, c'est l'échelle humaine qui est devenue, vous le voyez donc dans cette image-là, n'est-ce pas, ça c'est une de ces images importantes de Corbu, le modulor. L'échelle humaine, la tapisserie est toujours à échelle humaine pour le Corbusier, et l'échelle humaine est essentielle dans l'architecture des années 50 de Corbu, mais aussi dans la peinture, Clement Greenberg, Harold Rosenberg, dans leurs textes sur l'expressionnisme abstrait, jusqu'à la mesure de l'homme de Ernesto Rogers en Italie. Rudolf Witkover fait remonter l'anthropocentrisme du modulor de Le Corbusier à la Grèce, à Vitruve, à la Renaissance. Ce système numérique, découvert au XIIIe siècle par l'Italien Fibonacci, a aussi une tonalité médiévale et semi-religieuse qui aussi plaît beaucoup pendant les années 50, parce que le médiévalisme généralement tend à aller vers centre-gauche et à être vu comme une chose comme ça, communautaire, etc. Une autre chose qui est importante de la tapisserie après la guerre, donc sa vie après la guerre, c'est, là je vous montre, voilà, cet art national dans un bureau de poste. Alors imaginez le bureau de poste, tout doit aller très vite, mais on monte des tapisseries qui prennent 10 ans à être tissées. Dans ce bureau de poste, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, alors, le grain et sa texture, rugueuse sous la main, très importante pour Le Corbusier, on le verra, parce que pour lui, c'est une façon aussi de déjouer dans un après-guerre. Et aussi, au fait, après les années 30, comme on le sait, oui, les choses changent pour Le Corbusier déjà dans les années 30. Ce n'est pas par hasard qu'il fait sa première tapisserie pour Cutoli quand même dans les années 30. Cette idée du rugueux, du tactile, et donc c'est un peu une façon de déjouer l'esthétique machiniste. OK. Qu'est-ce que c'est aussi pour les Français après la Seconde Guerre? Et ça l'est toujours, mais ça l'est à nouveau, un hymne à la continuité. Les Français, donc, font ça depuis, donc, les manufactures. Ça, c'est déterminant, cette idée de continuité. OK. Après la guerre, la tapisserie est un art majeur. Je vais à Boulogne-Billancourt, ces musées où personne ne va jamais, le musée des années 30, et je vois cette tapisserie. C'était l'année dernière, je ne savais pas quoi faire de cette image, et voilà, elle arrive. Ça montre que les images, finalement, on peut toujours les utiliser prima ou poi. Et voilà Janiot, qui est celui, vous savez, qui a fait la tapisserie de pierre autour du musée des colonies, et aussi les sculptures, la tapisserie de pierre, et on appelait ça tapisserie de pierre, au musée d'art moderne de la ville de Paris, au Trocadéro, enfin, à côté du Trocadéro. Voilà, il appelle ça les arts majeurs. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on comprend que cette synthèse des arts, c'est la France qui veut l'exporter après la guerre. Il y a tout ça, dans tout ça, une géopolitique aussi de compétition avec les États-Unis. Nous, on fait du décoratif, mais on le fait majeur. Et là, Le Corbusier utilise en fait la même rhétorique que quelqu'un comme Janiot, qui est vraiment de l'autre côté du spectre de Le Corbusier. C'est-à-dire, on exporte à la Malraux, comme ça, avec cette voix, comme ça, des arts majeurs. Les Italiens, à l'époque, rien de tout ça. Après le fascisme, on est le plus mineur possible. Mais en France, il y a encore cette voix redondante, comme ça. Et la tapisserie joue un rôle important dans tout ça. Bon, une autre chose, il y a toujours, quand même. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est bloqué. Malgré tout cela, la tapisserie reste constamment associée à la guerre. L'exposition de Jean Cassou, par exemple, la tapisserie française du Moyen-Âge à nos jours, quitte le musée. Alors, ça, la première exposition au musée d'art moderne à Paris, après la guerre, quand il ouvre, c'est une exposition tapisserie, ce qui est aussi un peu étonnant quand même. On aurait imaginé que Cassou aurait montré de la peinture moderne. Non, il montre, alors ça c'est un anachronisme assez, bon, c'est comme ça. Et en 47, cette exposition voyage à New York et avant ça à Amsterdam, à Bruxelles, à Londres, à New York et ensuite à Chicago. Quand elle voyage, une chose qui est assez... Et c'est donc une très grande exposition qui va donc du Moyen-Âge à nos jours. Lursa en voit 27 tapisseries. Bon, je ne vous montre pas. Et d'ailleurs, il n'y a pas de photo de ces installations, mais ça devait être immense. 200 tapisseries, OK? 200 tapisseries exposées. C'est immense, ça traverse l'Atlantique. Et les Américains remarquent que, ça, par exemple, qu'elles sont amenées dans un navire de guerre, le croiseur George Legge, et qu'elles furent envoyées à Paris, c'est-à-dire, il revient sur un croiseur, et elles furent renvoyées à Paris sur un autre bateau de guerre, le Jeanne d'Arc. Le critique de Art News fit ce commentaire, je cite, « Seule une guerre et ses bouleversements peuvent avoir amené jusqu'ici ce panorama complet de tapisseries historiques. Elles furent exposées à Paris directement depuis leur refuge, où elles avaient été fortuitement regroupées pendant la guerre. » La tapisserie, à ce moment-là, résonne, et bon, je vous montre l'Apocalypse d'Angers, qui elle aussi est réinstallée à ce moment, on le refait, donc cette tapisserie immense, évidemment, à Angers. La tapisserie résonne pour Le Corbusier, avec les passages, enfin pour Le Corbusier, je le dis, je ne sais pas, le livre n'est pas annoté, il est dans sa bibliothèque en anglais, il n'a pas été traduit en français, ou peut-être il l'a été, mais je ne crois pas. La tapisserie résonne avec les passages de Siegfried Gideon sur le mobilier nomade du Moyen-Âge et son ouvrage « Mechanization Takes Command », la mécanisation au pouvoir. Donc le livre est en anglais dans la bibliothèque de Corbu. Un livre écrit pendant son séjour aux États-Unis en pleine guerre. Il se trouve donc dans et où Gideon a une longue digression sur le sens étymologique des mots français « meuble » et « mobilier » opposés au mot « immeuble ». Et là encore, la guerre. Je cite « Le château du grand seigneur est pratiquement vide lorsque celui-ci était absent. Il ne laissait derrière lui que quelques accessoires ce qu'il ne pouvait pas emporter. Toutes les classes de la société étaient menacées. Les fortifications et les armes représentaient les plus grosses dépenses des villes. Cette profonde insécurité, à la fois sociale et économique, contraignait marchands et seigneurs à amener leurs biens avec eux chaque fois qu'ils le pouvaient, car personne ne savait quelle violence allait éclater une fois que les portes étaient refermées derrière soi. » Fin de citation. Donc, cette idée donc, d'une tapisserie qui a un genre de pathos, okay, géographique. Alors qu'après la guerre de 14-18, la tapisserie célèbre le régionalisme, il y a toute cette série, par exemple, de tapisseries exposées à l'Expo de 25, l'exposition des arts décoratifs, à ce moment-là, elle exalte la petite patrie, les Pyrénées, la Bretagne, la Normandie, le Limousin, chaque région a sa tapisserie. Maintenant, dans les années 50, elle fait partie d'une synthèse des arts dont la France se veut porteuse à travers le monde, un nouveau globalisme, comme ça, des années 50, en tout cas international. On la voit ici, au siège de l'UNESCO, par exemple, un site éminemment international et un site aussi écuménique au moment de la guerre froide. Évidemment, c'est toute l'idée, c'est, vous savez, c'est construit par trois architectes de trois nationalités différentes, etc., etc., les artistes. Elle est plutôt mal placée, c'est toujours le problème des tapisseries, on ne sait pas exactement comment les mettre, et elle est là, comme ça, à côté des escaliers. Bien, elle a été commandée, au fait, par la Confédération Suisse, et elle fut offerte pour la salle du Conseil exécutif. Mais maintenant, elle est sur les escaliers. Et voilà, il y a problème. Et vous voyez aussi comment Le Corbusier, évidemment, l'expose avec la texture rugueuse du béton armé. Au Japon, elle voyage elle aussi. Nous la voyons ici et vous la verrez à l'exposition Charlotte Perriand en octobre. Ils vont refaire des expositions entières. Maintenant, c'est la nouveauté, n'est-ce pas? On refabrique, on reconstruit des expositions. Elle voyage en 55 dans les magasins, le grand magasin Takashimaya à Tokyo, pour proposition d'une synthèse des arts Paris, 1955. L'argument, alors ça a été organisé donc par Charlotte Perriand. L'idée, c'est donc de mettre, alors nous avons ici Miro, Picasso, Bazaine, Léger, Le Corbusier, l'argument de vente, parce que tout est évidemment en vente et il faut que ça vende, étant qu'ils appliquent leur talent à la rénovation d'anciennes techniques traditionnelles, ça les Japonais aiment bien, telles tapisseries, ainsi que certains d'entre eux, pas Le Corbusier, mais enfin la céramique et le vitrail. Grand espoir de vente, comme j'ai dit, de la part de Le Corbusier, très insistant avec Perriand et Denise René. Et là, on voit donc... Alors là, la tapisserie va jusqu'au sol et elle est vraiment une cloison. Elle n'est pas vraiment un mur, mais on voit qu'elle devient une cloison mobile et qu'elle arrive jusqu'au sol. Bon, je vais... Je ne sais pas si... Combien de temps j'ai encore? OK, bon. Là, j'irai très vite, mais je dirai tout simplement, parce que vous verrez ça. Et pourquoi ça se bloque chaque fois? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais attendez une seconde. Non, mais c'est parce que l'autre truc a apparu, là, le petit square. Attendez une seconde. Suivant. Allez. Non? Est-ce que quelqu'un peut me enlever ce... Attendez. Ah. Ouais. Tout ça pour dire que Charlotte Perriand, elle ne fera pas de la tapisserie. OK? Elle expose la tapisserie de Corbusier, etc. Elle ne fera pas tapisserie, elle ne fera pas de la tapisserie. Donc, il y a une question de genre ici aussi, et ils vont, je vais pas, j'aurai pas du tout le temps de parler, par exemple, de ça, mais ça, c'est ce qu'elle fait, par exemple, à Tokyo, et vous allez voir, on va refaire, ils vont reconstruire ce mur cinétique qui, lui aussi, enfin, il est mouvant, il est aussi une partition, etc., mais elle ne touchera pas à la tapisserie, mais elle l'expose quand il faut exporter l'idée de synthèse des arts. Maintenant, que la fin de toute cette histoire, c'est que, bon, on se déplace loin, un autre voyage en Orient, voyage Orient de sa vieillesse, si on peut dire, c'est en Inde que les plus grands murs tissés de Le Corbusier furent exécutés. 9 tapisseries, je vous en montre une et je vous montrerai des photos, furent tissées pour... Et en fait, il y a très peu de bonnes photos. On peut... Très difficile, Jean-Louis me dit de nouveau, très dur de rentrer, là, à nouveau, et puis l'air conditionné qui a perforé les tapisseries, etc. 9 tapisseries furent tissées pour la haute cour et pour le parlement de Chandigarh, la nouvelle capitale de l'État du Punjab, après la partition avec le Pakistan. Donc, là, voilà, en 55, il commence un peu plus tôt. De gigantesques panneaux. Nous y retrouvons des motifs cosmiques, soleil, nuages, éclairs, foudre, méandre. Donc, ces motifs qui plaisent dans les années 50 parce qu'ils sont soi-disant apolitiques, alors qu'en fait, ils sont tout à fait liés à la guerre froide parce qu'ils ont un côté utopique et dystopique, atomique. Et, enfin, donc, il y a le côté de destruction et de construction. Et donc, voilà, on a ces thèmes donc cosmiques. Et ce sont des murs de laine, ils sont en épais cachemire, ils renforcent le message humaniste des surfaces de béton nues, lourdement texturées des bâtiments, et vous savez tous comment se présente Chandigarh, énorme complexe, n'est-ce pas? Ce qui est important, c'est aussi le détachement des murs, nous verrons, quelques millimètres, voilà, regardez, il montre évidemment, il y a l'œillet là, c'est très important, et dans tout mon livre Mural Nomade, il faut que tout soit détaché du mur, enfin, si possible, au moins d'un centimètre, même si on dit être au fait collé au mur. Et donc là, il explique. Maintenant, ce qu'il fait ici, Le Corbusier, c'est grâce au moduleur, nous avons toute cette correspondance où il explique comment on va produire en 6 mois 600 mètres carrés de tapisserie, c'est énorme. Et il a ses idées de division du travail, un village, une famille, 4 éléments, et en plus, tout à coup, un genre de rêve néo-orientaliste où on peut faire une division du travail dans le village, et tout ça par correspondance, évidemment, un artisan, une famille, ils recevront les cartes de couleur, et donc il y a plein de projets ici, et aussi le moduleur permet de faire, en fait, un éclatement, ça veut dire que la tapisserie n'a pas de centre, la tapisserie a une composition qui est entièrement dispersée et garde un sens au niveau de l'échelle et de la composition grâce au système du modulor. En tout cas, il propose, et ça marche plus ou moins bien, cette histoire de la famille, des artisans, des spécialistes, en tout cas, tout est fait en Inde, et voilà ces photos extraordinaires, parce que comment on montre ces tapisseries? On les montre à plat. Là, sera pas vraiment fait dans des familles, ça sera fait de façon beaucoup moins cottage industry que ce que voulait Le Corbusier, parce qu'il y avait problème de temps. Et voilà, les tapisseries couchées. Donc, un dernier point que je veux faire, c'est celui-ci. C'est, oui, alors, bon, il y a une absence totale de bordure. Et ça, là, pour la première fois, donc, elle devient cette chose que je relis à un livre dont il n'y a pas de trace dans sa bibliothèque et même aucune trace de son nom dans les archives et dans la correspondance. Mais on pourrait dire que c'est à Chandigarh que les tapisseries de Le Corbusier se rapprochent le plus de la thèse de l'architecte et théoricien Gottfried Semper, qui a signé exactement un siècle plus tôt, en 1860, dans un des livres les plus originaux et les plus spéculatifs qui ait jamais été écrit sur l'architecture, une origine textile à l'architecture. Le livre n'est pas encore traduit en français, mais c'est « Style et les arts techniques et tectoniques ». Mais apparemment, il va sortir bientôt en allemand. Il a été traduit récemment, comme vous savez, par le Gary. Appuyant son argumentation sur l'idée du textile en tant que Urkunst, art premier, et sur celle de Bekleidung, revêtement, comme principe formel le plus ancien, le prototype de la forme tectonique, et faisant appel à la consonance étymologique des langues germaniques entre Wand, mur, et Gewand, vêtement, Semper, comme beaucoup de vous le savent, affirma que le mur tissé, qui au départ était un moyen de séparer son foyer de l'espace extérieur, précéda les murs, qu'ils soient en pierre ou en tout autre matériau. Donc le textile est l'origine. C'est dans l'acte de clôturer l'espace imaginé, l'espace imaginé dans les tentes des tribus primitives que l'architecture est née. Les temples égyptiens qui se sont développés à partir des marchés aux pèlerins improvisés et même plus tard étaient souvent bricolés avec des poteaux et des toiles de tente. Le tissage et la teinture qui ont mené à la polychromie, c'est cette chose qui intéresse évidemment beaucoup Le Corbusier dans le mural, furent inventés afin de créer des tapis colorés, écrit Semper, pour habiller des murs, couvrir les sols et servir d'auvent. Même après que la nécessité de murs en dur se fit sentir, ceux-ci restèrent des substituts de la cloison d'origine, le mur textile. Depuis des temps lointains, maintenait Semper, les tissus colorés les plus splendides venaient de l'Orient. Et ils eurent une influence majeure sur l'Occident jusqu'au début du Moyen Âge. Okay, un mur, un livre comme ça, comme vous savez, donc résumé en 6 lignes. Pour Le Corbusier, aucun projet ne pouvait être plus attrayant que celui-ci. Dans la mesure où la politique de non-alignement de Nehru, à l'époque de la guerre froide, lui permettait de se frayer un chemin au sein de nouveaux alignements géopolitiques pendant la guerre froide, justement. Travailler en Inde était une occasion idéale d'effacer ces épisodes algériens des années 30, mais surtout ces épisodes algériens. Bon, là, c'est pas l'Algérie, mais je vous le montre quand même. Pourquoi ça fait ça à chaque fois ? Une seconde, la dernière image. Il faudra régler ça pour les prochains. Bon. Les tapisseries de Le Corbusier à Chandigarh reflètent donc alors un nouveau alignement. Les tapisseries de Le Corbusier à Chandigarh reflètent les ambitions et l'utopie d'un nouvel ordre post-colonial, mais aussi des réalités d'une région qui est celle du Punjab, où 13 millions de personnes se trouvant du mauvais côté de la frontière indo-pakistanaise deviennent des réfugiés. La démesure du complexe architectural de Chandigarh, que les tapisseries visaient à ramener à l'échelle humaine du modulor, demeure cependant emplie d'ambiguïté. En termes de géopolitique, elle signifie une urbanisation progressiste, voulue par Nehru, couronnée par une réussite architecturale exceptionnelle, mais aussi un symbole de l'arrogance, d'une ingérence occidentale, au sein de ce que l'on appelait alors encore le tiers-monde. Merci.